Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Eh bien, figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Eh bien, devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien. Il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100€ sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100€ sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai. Traînez pas et maintenant, place à l'épisode.
L'acupuncture, pour moi, je parle, c'est une expérience toute personnelle. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, l'acupuncture est arrivée à point nommé dans mon parcours de soins, donc de kiné, ostéo et acupuncture.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada. Et dans ce nouvel épisode, je suis avec Xavier Ganté-5, qui est kinésithérapeute, ostéopathe et aussi acupuncteur. Un an après avoir terminé sa formation de kinésithérapeute, il entreprend donc l'étude de l'ostéopathie. Donc très rapidement, au sein de la méthode solaire, on aura l'occasion d'en parler un petit peu dans cet épisode. Il s'est ensuite intéressé de près à la médecine chinoise, à la médecine traditionnelle chinoise, à ses fondements. Il s'est formé en acupuncture et il pratique l'acupuncture aujourd'hui en complément de ses autres disciplines thérapeutiques au sein de son cabinet dans le sud-est de la France, à 7 pour être précis. Alors qu'est-ce que l'acupuncture ? Est-ce qu'un sportif pourrait trouver du bénéfice ? Est-ce que cette discipline peut stimuler vos performances ou même simplement garantir une meilleure santé? Ce sont des questions que je tenais à lui poser, étant moi-même peu connaisseur de l'acupuncture et même de la médecine chinoise de manière générale. Xavier, donc, il a accumulé
depuis ses débuts pas mal d'expériences, notamment à travers le suivi de sportifs. Il possède d'ailleurs un compte Instagram où il poste régulièrement des photos et des petites vidéos de ses traitements en cabinet, que je vous invite d'ailleurs à suivre pour en découvrir plus sur lui. Vous retrouverez sa page Instagram dans les notes de l'épisode. Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir quelles ont été ses premières difficultés lorsqu'il s'est installé en libéral, comment a évolué sa pratique depuis ses débuts pour traiter les douleurs et les déséquilibres du corps. Xavier va nous partager sa première expérience d'ostéopathe en tant que patient, mais également en tant que thérapeute, comment ça s'est passé. On va bien sûr parler d'autres sujets, tous plus intéressants les uns que les autres, que je vous invite à découvrir au sein de l'épisode. Avant de lancer le podcast, je vous rappelle comme toujours que vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique. Il s'agit du premier lien qu'il y a dans les notes de l'épisode. Vous ferez partie de ma liste de contacts privés pour mes futures annonces et lancement d'épisode. Je vous laisse écouter tout de suite ma conversation avec Xavier. Et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Bon, alors moi j'ai toujours une même question qui revient à chaque fois que je commence ces podcasts, parce que généralement j'ai des athlètes ou des sportifs et je trouve ça intéressant d'avoir leur première expérience sportive, on va dire, dans une salle de sport. Je vais l'adapter cette fois pour essayer de coller un petit peu plus à la situation. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce que tu pourrais, si tu t'en souviens évidemment, me parler de la première fois que tu as fait une consultation d'ostéopathie, mais que en tant que patient?
Alors, en tant que patient, oui, je me rappelle très bien. D'ailleurs, les deux fois, en tant que patient, pour de la rééducation et en tant que patient pour de l'ostéopathie. Donc, en tant que patient pour la rééducation, en kiné, bon, je devais avoir 14 ans et effectivement, j'étais sportif à l'époque, je jouais au foot et je m'étais blessé. Donc, fait mal à un muscle, il me semble que c'était un problème sur une cuisse ou devant ou derrière, je me rappelle plus, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai eu mon premier contact avec un kiné, ça avait été celui-là, et j'étais tombé sous le charme directement lors de la première séance, le charme de ce métier, de contact, je me rappelle de la tête de ce kiné, en fait, qui parlait sans cesse avec les gens qui soignaient, qui les touchaient, qui passaient du temps avec, pour parler, pour discuter, pour rassurer, pour soigner, et c'était un contact très intéressant pour moi et ça m'a fait naître une véritable vocation, je peux le dire. Pour preuve, je me rappelle même de cette première séance de kiné et c'est cette séance-là qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Ça, c'est pour la kiné, la rééducation. Et l'ostéopathie, c'est quelques années plus tard, en fait, toujours pareil, au sport, j'étais souvent blessé, je me faisais toujours mal au même endroit et la même façon. Dans le dos, là, et apparemment, c'était d'être une côte, je peux le dire maintenant, parce que je le sais maintenant. Donc, mon entraîneur de l'époque, il m'a dit, va voir un tel sur 7, un ostéopathe, il va te soigner ça. Et je savais même pas ce que c'était ce métier, l'ostéopathie. Donc, je suis allé le voir, et ça a été à nouveau une deuxième révélation. Je me suis dit, ce métier, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je veux faire ce métier avec deux manipulations. Il m'a réglé mon problème, pour lequel j'étais embêté depuis 2-3 saisons. Et une séance, on n'en a plus parlé, un problème mécanique, on va dire banal, oui, parce que c'était une côte, donc banal, et il m'a vraiment impressionné. Et je veux finir ça aussi, parce que c'est important pour la suite de ma vie professionnelle, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré cet ostéo qui m'a soigné pour la première fois, non seulement c'était la première fois que je voyais un ostéopathe, mais aussi, je me suis tellement entendu avec ce gars, je devais avoir 17-18 ans à l'époque, qu'en fait, je me suis dit, si je pouvais faire ce métier et avec ce mec, si je pouvais travailler avec ce gars, ce serait super, quoi. Et en fait, j'ai réussi à faire ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à pouvoir travailler avec ce gars, cet ostéo qui m'a soigné quand j'avais 16-17 ans. Et à la fin de mes études de kiné, donc je réussis à travailler dans son cabinet. On s'est même associé par la suite. Donc c'est quelque chose qui a... Et l'association s'est très très bien passée. Ça a été vraiment très enrichissant. 12 ans de vie professionnelle commune. Très 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 enrichissante et très intéressante. Voilà. On en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est quelqu'un d'important dans ma vie professionnelle, effectivement.
Voilà. Ouais, bien sûr, on en reparlera, ok. Et c'est assez marrant parce que justement, moi aussi, si je vais fouiller un peu dans ma mémoire, je me rappelle que la première fois que j'ai eu une expérience, on va dire, d'une manipulation ostéopathique, on va dire, c'était sur un problème de vertèbres et côtes également. Et je me rappelle, j'étais vraiment jeune, j'étais à l'école primaire. Et c'était mon médecin de famille qui avait fait des formations en en thérapie manuelle, puisqu'il n'était pas, ou alors ostéopathe, honnêtement, je m'en souviens plus trop, mais je me souviens qu'il avait fait une technique qui s'apparente à des techniques d'ostéo, enfin de manipulatives en tout cas. Et que ça m'avait décoincé aussi parce que j'avais des douleurs à l'inspiration, à l'expiration, comme s'il y avait un peu une espèce de névralgie intercostale là où il y a un problème articulaire entre une vertèbre et une côte. Il y a un pincement au niveau d'un nerf qui crée vraiment cette douleur qui, à l'inspiration, qui vient transcender vers l'avant, au niveau des côtes.
Et c'est là où c'est important parce que tu l'as vécu comme moi en tant que patient, mais tu peux bien imaginer ce que les personnes qui viennent nous voir peuvent ressentir, effectivement, surtout pour des histoires de côtes, parce que ça fait tellement mal, ce problème-là, qui est bénin, certes, mais qui fait tellement mal parce que ça induit la mécanique ventilatoire, donc c'est très inflammatoire et très aigu, et quand on arrive à mobiliser soit la vertèbre, soit la côte avec la vertèbre pour libérer l'espace et libérer la restriction de mobilité de cette côte, la personne ressent immédiatement le mieux. Et tout de suite, on a une ampliation thoracique bien mieux, moins douloureuse. Et ça marque. Parce qu'en fait, c'est vraiment inquiétant quand on a du mal à respirer. Et quand on libère ça, les gens sont, à mon avis, se souviennent de ça, quoi. Enfin, ça marque dans le corps, quoi, je crois.
Bien sûr, ouais. Et puis, c'est quelque chose de concret. Il y a une véritable différence qui se fait, comparée peut-être à des choses qui sont un peu plus... On y reviendra, je suis moins au fait des choses un peu plus énergétiques, on va dire. C'est vrai que tout ce qui est mécanique, en général, c'est... On est presque sur... juste avant la technique, il y a douleur. Juste après la technique, il n'y a plus rien.
C'est ça. Ouais, c'est le côté magique de l'ostéopathie, oui, effectivement. Ou la thérapie manuelle.
Comparativement à cette première expérience en tant que patient, est-ce que tu te souviens de ta première expérience en tant que thérapeute quand tu as eu en charge ton premier patient?
Alors, on ne peut pas dire vraiment que ce soit mon premier patient en tant qu'ostéopathe vrai. Pourquoi? Parce que dans mon parcours d'étudiant, ou en tout cas d'apprenti ostéopathe, j'étais kiné, donc j'avais la matière première, on va dire, pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure en aparté, que ma formation d'ostéo s'est faite par des week-ends de formation, et non pas sur une école en continu. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on sortait de week-end de formation ou de semaine de formation, le formateur nous incitait à employer les techniques directement apprises la veille, quoi. Donc tout ça pour dire que mon premier séminaire de formation en mécanique, en ostéopathie, c'était les cervicales. Et je me souviens, ça devait être le lundi ou le mardi, le retour de cette semaine de formation, où j'ai eu une cervicale à faire. C'était quelqu'un que je connaissais qui était sur la table, qui n'était pas venu pour ça, forcément, qui était en rééducation. Et comme je le connaissais bien, je lui ai demandé s'il m'autorisait à pouvoir faire les techniques que j'avais apprises, si je pouvais reconnaître quelque chose. Et effectivement, j'ai fait cette manœuvre, il y a eu le résultat. Ça a été magique pour moi parce que c'est la première fois que je sentais ça dans mes mains. Et je crois que ça a marqué ça aussi, le départ d'une espèce de révélation qui a fait que ça m'a motivé pour le reste, oui, évidemment. Donc c'est un premier souvenir d'ostéo sans l'être vraiment, quoi. Voilà. Mais c'est quand même important, je crois. Voilà. Je m'en souviens en tout cas.
Ok. Donc toi, originellement, en fait, tu as fait des études de kinésithérapie. Donc tu es kinésithérapeute à l'origine. On va dire, et qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre des études d'ostéopathie, de te former en ostéo en parallèle? Est-ce que t'avais l'impression qu'il te manquait une corde à l'arc, ou tu voulais simplement élargir ta pratique, ou juste pour avoir des cas différents? C'était quoi l'objectif de départ?
Ou alors l'objectif de départ, l'objectif, c'était justement, on me disait toujours qu'il fallait mieux être en France professionnel de santé avant d'être ostéopathe, surtout à l'époque, c'était, je rappelle, en 1998 où j'ai commencé, 1998, donc l'ostéopathie était vraiment pas reconnue encore, et c'est clair qu'il valait mieux être kiné plutôt qu'ostéopathe. Donc du coup, j'ai fait effectivement des études de kiné parce que ça m'intéressait, le milieu sportif m'intéressait, j'étais jeune, sportif, j'avais beaucoup de cas, on va dire, à traiter dans le milieu sportif, donc tout ce qui était entorse, cheville, genou, les blessures musculaires du foot, du rugby, tout ça, ça m'intéressait beaucoup, dans le suivi de sportifs, ça m'intéressait, en kinésithérapie, mais, et pour tout avouer, en fait, j'ai fait kiné dans le but, vraiment, de faire l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a été révélé à l'époque par ce fameux ostéopathe quand j'avais 16-17 ans, ou 18 ans, et ça m'a révélé vraiment quelque chose d'important en moi, Et donc j'ai fait kiné pour ensuite faire de l'ostéopathie, pardon. Et effectivement, pour avoir, on va dire, une vision beaucoup plus globale des choses, parce que c'est vrai qu'en kiné, on est vite limité en termes de moyens, de capacité de réflexion sur les cas proposés ou sur les cas qu'on a en cabinet. C'est toujours, en tout cas, je parle pour moi, je me sens très vite limité en termes de moyens quand on reçoit des gens, quoi, en fait. Voilà.
Ce cheminement-là que tu as eu, est-ce que ça a été le même pour l'acupuncture ? J'aurais évidemment présenté en introduction tes différentes activités. Ça ne sortira pas de nulle part comme ça. Mais est-ce que ça a été la même chose ou alors ça s'est découvert ? Enfin, tu as découvert cet attrait un peu plus tard pour l'acupuncture ?
Oui, ça s'est venu après, plus tard, oui. Plus tard, le champ de l'ostéopathie est tellement grand que quand on y tombe dedans ou quand on commence à apprendre ça, franchement... Celui qui dit au bout d'un an ou deux ou trois de dire non, ça, il me manque quelque chose, je vais aller chercher quelque chose ailleurs, c'est que a priori soit ça l'intéresse pas et à ce moment-là effectivement il s'est trompé de voie, soit il n'est pas allé vraiment au fond des choses ou en tout cas il n'a pas expérimenté tout ce qu'il a expérimenté dans l'ostéopathie, à savoir la mécanique, à savoir le viscéral, à savoir l'énergétique, parce que il y a ces trois volets dans la méthode que j'emploie, qu'on s'appelle la méthode de Monsieur Solaire, de Monsieur Roland Solaire, dont on parlera tout à l'heure éventuellement. Et effectivement, pour répondre à la question, c'est vrai que l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, donc dont l'acupuncture est un moyen, pourquoi je m'y suis intéressé, c'est venu bien après. Je veux dire, quand en fait les paradigmes selon lesquels je travaillais, dans la philosophie dans laquelle je travaillais, tout ça, ça s'est modifié, ça a évolué. Et effectivement. Au bout d'un temps, avec beaucoup d'expérience ou avec de l'expérience, on se rend compte qu'effectivement, dans l'ostéopathie, il y a des choses qui manquent ou alors qui peuvent être complémentaires dans d'autres techniques, dans d'autres façons de penser, et qui peuvent être complètement complémentaires à l'ostéopathie, l'acupuncture notamment. Ouais. Donc c'est venu plus tard, en faisant, on va dire, chemin faisant.
Alors tu vois, moi je suis hyper novice sur l'acupuncture par exemple, je suis curieux évidemment, ces podcasts m'aident également à ouvrir un peu mes connaissances et à, on va dire, poser des questions à des gens qui savent pour m'aider à mieux comprendre certaines pratiques que je ne connais pas. Moi j'aime bien directement aller discuter avec des gens qui savent, qui font. J'aime aussi aller regarder, aller lire des bouquins, aller me renseigner par moi-même, mais je trouve ça plus intéressant, en plus ça permet également d'en faire profiter un certain public. Donc comme je disais, ouais, je suis assez novice, moi je connais pas du tout l'acupuncture, on y reviendra après parce que ça m'intéresse énormément. Juste avant de basculer là-dedans, chose qui va être peut-être un peu plus technique, mais sans vouloir faire peur à tout le monde, on va rester simple, hein, on va rester général, hein, pour que tout le monde comprenne. Mais avant ça, je sais que c'est peut-être une question qui va intéresser du monde, en tout cas les thérapeutes surtout, ils vont se sentir concernés, le grand public aussi, ça peut permettre d'ouvrir les œillères sur ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'impression de départ, mais quand on commence en tant que thérapeute, en tant que professionnel de la santé, ostéopathe, acupuncteur ou quoi, on fait face à des difficultés au début, c'est souvent après s'être formé qu'on se lance en libéral, et est-ce que tu te souviens, toi, des plus grandes difficultés, des grands obstacles que tu as eus lorsque tu as démarré ta profession en libéral ? Alors c'est peut-être un petit peu différent parce que tu as commencé kiné, mais ça pourra déjà donner une bonne idée, quoi.
C'est vrai que la différence, la façon dont moi j'ai démarré dans le domaine de la santé et du mieux-être, est différente d'un ostéopathe qui va démarrer ostéopathie directe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en tout cas je parle pour moi, parce qu'on est en France, la kinésithérapie nous permet, avoir une clientèle de kinésithérapie, une patientèle de kinésithérapie nous permet quand même d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une espèce de matière première, on va le dire comme ça, qui nous permet de nous entraîner sur des techniques apprises sur des week-ends ou des semaines précédentes. Donc du coup, c'est vrai que la maîtrise, ou en tout cas l'apprentissage de la maîtrise d'une certaine technique et donc l'apprentissage de l'expérience, en fait, donc l'expérientiel est très important là-dedans, donc est beaucoup plus facile à acquérir par le fait qu'on a beaucoup de gens à disposition et on n'a pas l'obligation, entre guillemets, quand on fait ça, l'obligation dite de résultat, comme un ostéopathe pourrait l'avoir quand il consulte un patient, puisque cet ostéopathe, évidemment, il fait un travail, il réfléchit, il exploite et il fait ses manipulations, donc il fait un travail, donc il va être rémunéré à la fin. Et donc, normalement, même s'il n'y a pas obligation de résultat, il faut quand même qu'en tant que thérapeute, on a un peu, entre guillemets, la pression de se dire qu'effectivement, il faut un résultat. Donc c'est vrai que quand un kiné apprend l'ostéopathie, cette espèce de pression n'existe pas, puisqu'on a la possibilité de s'entraîner. Mais je pense que l'expérientiel est très, très, très important dans ce métier. Il est évident d'acquérir une main et d'avoir une expérience qui se fait par le nombre et non pas par les cours, la maîtrise des cours, de la théorie. Ça, il faut l'avoir, bien sûr, mais tout se traduit dans les mains, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est très important d'expliquer, de faire partager et d'écouter le retour des gens. Très, très important, je pense. Et ça, je parle avec l'expérience. Parce qu'en fait, les gens nous disent quasiment tout et nous régulent dans tout, en fait. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire au bout d'un temps.
D'accord. Quand tu as démarré en tant que kiné, tu t'es installé directement en libéral. Est-ce que tu as eu des difficultés à rejoindre de la clientèle, mais bon, de la patientèle? T'as eu du mal à rejoindre ou c'est venu assez rapidement parce qu'il y a ce débat qui, enfin, je sais pas si c'est un débat, mais cette grande idéologie qui dit qu'en tant que kinésithérapeute, quand on s'installe, ça va très vite parce qu'on est très vite référé par les médecins, on est remboursé, etc. Là où l'ostéo, pour le coup, je parle en connaissance de cause puisque je suis uniquement ostéopathe et quand j'ai démarré, ben, j'étais ostéopathe uniquement en libéral. Et la plus grande difficulté, c'est de rejoindre les gens, quoi, c'est d'avoir sa première vague de patientèle, on va dire, pour ensuite pouvoir monter tranquillement.
Il faut montrer aux gens qu'on est capable et donc le bouche à oreille est très important. C'est la principale voie d'exploitation, en fait, c'est le bouche à oreille. Mais pour avoir un bouche à oreille, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent. Donc c'est vrai que c'est difficile de connecter des gens, forcément, au tout début. À partir du moment où on est ostéopathe. Dans mon cas, c'est vrai que moi, j'ai eu de la difficulté, on va dire oui et non. Je vais dire non parce qu'effectivement, j'ai intégré un cabinet qui marchait très fort déjà, en kinésithérapie. Donc, en fait, moi, j'ai intégré ce cabinet pour... Je remplaçais un gars qui partait. Donc, je faisais place pour place. Donc, du coup, en kinésithérapie, j'ai travaillé très rapidement. Et beaucoup aussi. Mais bon, en kinésithérapie, en France, tout est remboursé. Donc, je veux dire, c'est pas tellement glorieux, entre guillemets, sauf qu'il faut travailler. Mais pour ma part, c'est vrai que l'objectif premier était de soigner des choses et l'objectif était d'aller vers l'ostéopathie rapidement. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on rejoint les non-kinés, à savoir que les gens ne vous font pas confiance dès le départ. C'est évident. C'est tant qu'on n'a pas une certaine expérience, tant qu'on n'a pas une certaine renommée, entre guillemets, dans la ville ou dans le village, tant qu'on ne parle pas de nous, c'est compliqué de se faire une expérience. Donc c'est vrai que l'ostéopathie, c'est assez difficile.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue au final. C'est qu'on on demande à un thérapeute, à un ostéo d'avoir de l'expérience. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas gagner de l'expérience si on ne va pas le voir. Bon, je pense que c'est pas uniquement un truc qui se retrouve que chez les ostéopathes. Hein. C'est pour beaucoup de professions qui demandent de la confiance, où on met un petit peu soit sa santé, soit quelque chose qui a beaucoup de valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. J'imagine que c'est pareil lorsqu'on veut faire une maison ou son propre domicile quand on demande des travaux, on va faire à quelqu'un qui a de l'expérience parce que c'est son chez soi. Si on peut faire un parallèle par rapport à ça, je sais pas.
Et cette expérience ne s'acquiert effectivement que dans le temps. Voilà. Donc du coup, si on donnait un conseil là-dessus, c'est qu'il faut vraiment pas se décourager, quoi. Il faut être très 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 tenace dans le travail et pas se décourager, avoir confiance en soi. Donc du coup, c'est avoir confiance en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être maîtrisé déjà tout ce qui est la théorie, et en tout cas la travailler, la bûcher, et effectivement ensuite mettre en pratique cette théorie, qui est forcément pas... tout ce qui est écrit dans les livres ne se retrouve pas chez les gens, bien évidemment. Donc du coup, c'est ça ce qu'on appelle l'expérience. Donc voilà, il faut persévérer, continuer, voilà, ne jamais se décourager. Je pense que c'est un mot qu'il faudrait se tatouer tous, la persévérance.
Ouais, c'est ça, persévérer, puis, non, mais effectivement, entre la théorie, ce qu'on va t'apprendre à l'école, ou même dans les livres, ou ailleurs, est-ce que tu vas retrouver toi-même dans ta propre expérimentation? Il y a toujours une espèce de gap. C'est intéressant de faire, de juger toujours sur les deux. Et c'est là que tu te rends compte, il y a certaines choses qui vont marcher, d'autres non, que certaines vont marcher chez certaines personnes, d'autres pas du tout. Il y en a qui vont être sensibles à des techniques un peu plus énergétiques, d'autres qui vont être sensibles à des techniques un petit peu plus manipulatives, structurelles, on va dire. Ce qui fait que la pratique change, s'améliore. Et est-ce que depuis que toi tu as commencé, ta pratique a évolué forcément, et sur quel domaine, ou en tout cas sur quel point précis tu penses qu'elle a le plus évolué depuis que tu as démarré?
Quand j'ai évolué de l'ostéopathie, kinésithérapie, ostéopathie vers l'acupuncture, parallèlement à ma vie professionnelle, je faisais à l'époque du sport, pas mal de judo notamment, donc un sport qui nous permet d'être en questionnement avec soi-même par rapport à l'amplitude de ce sport, c'est évident. Et c'est vrai que mon prof de judo, qui n'était autre que mon beau-père, donc le père de ma femme, effectivement, au cours de discussions, non seulement sur le tapis, mais en dehors, évidemment, puisque c'était mon beau-père, les discussions sur le devenir, sur la philosophie extrême orientale, sur ce que pouvait amener le judo dans la vie de tous les jours, l'art, cet art de combat, effectivement, m'a fait poser beaucoup de questionnements. Et effectivement, par rapport à ces discussions autour de la philosophie du zen et la voix qui avec laquelle lui je discutais avec lui de cette philosophie, m'a amené effectivement à essayer de travailler, de voir un petit peu le côté de la médecine traditionnelle chinoise via l'acupuncture. Et donc effectivement, c'était une rencontre, comme je disais tout à l'heure, prépondérante dans la vie, qui a fait que effectivement l'évolution a fait que à ce moment-là, les choses se sont faites naturellement grâce à des rencontres qui sont très importantes, et celle-là a été importante à plus d'un titre, évidemment, puisque c'est quelqu'un qui était très important dans ma vie. Voilà.
Ce que tu viens de dire me donne effectivement l'occasion de parler de la méthode solaire. Donc c'est une méthode donc d'application de soins, c'est donc une méthode d'application du concept ostéopathique. Donc Roland Solaire est un monsieur, un ostéopathe, kiné ostéopathe, qui a travaillé pendant très longtemps, et il est maintenant plus que formateur, donc il travaille plus en libéral, mais il a mis au point cette méthode. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à savoir, chez telle personne, il y a cette technique qui va marcher, chez l'autre, ça va cette même technique qui normalement aurait dû faire le même effet, ben, ne fait pas du tout le même effet. Parce que elle n'est pas dans la même disposition, peut-être qu'il y a autre chose à côté, on ne sait pas, machin, bidule, voilà, enfin, peut-être c'est plus articulaire que viscéral, ou c'est plus viscéral qu'articulaire, ou effectivement il y a un peu d'énergétique dedans, un peu d'acu. Voilà, en fait, tout ça pour dire que cette méthode solaire, quand on l'a fait en entier, c'est-à-dire les normalisations articulaires, les normalisations viscérales et les normalisations énergétiques, la globalité de la méthode nous donne la possibilité de pouvoir discerner les gens avec la pratique, bien sûr, mais discerner les différentes on va dire facettes des gens. On va pouvoir discerner quelqu'un qui aurait besoin directement de viscéral plutôt que d'articulaire, ou quelqu'un qui a plus besoin d'articulaire que de viscéral, ou au contraire, ni articulaire ni viscéral, il faudrait faire plus de l'énergétique parce qu'elle est en un problème de phase énergétique, c'est-à-dire mieux un mal-être, on va dire, psychosensoriel, on va dire comme ça, qui fait qu'effectivement, elle a des douleurs un peu partout, cette personne, soit au niveau articulaire ou dans le ventre ou dans sa tête, enfin voilà.
Et pour faire cette différence, est-ce que c'est basé sur des techniques, sur des tests, ou alors c'est peut-être des différences de caractéristiques, de morphologie, de comportement, comment tu catégorises, on va dire, le type de technique qu'il va falloir à une personne?
Voilà, en fait, cette méthode-là est basée effectivement sur la morphotypologie, l'exploration énergétique qui va balayer un petit peu tout le reste, à savoir une personne qui arrive, qui est toute joviale, sportive, 25 ans, n'a a priori pas forcément beaucoup de problèmes d'ordre énergétique, il n'y a pas de mal-être, contrairement à quelqu'un qui pourrait être dans les, aux alentours de 45-50 ans, en train de se poser des questions dans sa vie, est-ce que je dois divorcer, pas divorcer, est-ce que je dois dire à mon patron que je ne veux plus le voir, est-ce que je suis en burn-out, je suis, voilà. Donc pour le même problème de genou, on va dire, le gars de 25 ans, on sait que c'est plus, on va dire, vers le sport ou vers une activité sportive, donc ça va être que de la mécanique. Tandis qu'un problème de genou sur un gars qui a un questionnement comme ça dans sa vie aux alentours de 49-50 ans, c'est vrai qu'on peut se poser d'autres questions qui pourraient nous amener à l'explication d'un problème de genou. Je ne suis pas en train de dire que la tête, s'il a un problème de mal-être, est en train de ce problème lui donne un problème de genou, mais ce problème de genou peut être la résultante finale d'un problème qui est beaucoup plus global et qui est, on va dire, qui pourrait être un peu plus caché, traduisant une espèce de contexte qui est complètement différent. Donc cette méthode nous permet d'investiguer un petit peu et d'orienter, on va dire, le diagnostic d'emblée, on va dire. Voilà. Donc ça nous permet de ne pas perdre de temps.
Ce qui rejoint un des concepts phares de l'ostéopathie, à savoir les chaînes de lésions, par exemple, ou les adaptations. On a pour habitude de prendre un exemple, on va dire, extrême, qui est à savoir, si t'as mal au pied, ça peut venir des cervicales. Ça peut être servi même des fois par certaines personnes qui veulent décrédibiliser l'ostéopathie dans un sens en prenant un exemple qui est farfelu. C'est vrai que, dit comme ça peut paraître bizarre, j'ai mal au pied parce que j'ai un problème au niveau cervical. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, quand tu connais pas trop l'anatomie ou comment le corps est fait, tu peux te dire, bon, lui, il a fumé. En fait, le concept, c'est à savoir que c'est un enchaînement de liens, d'adaptation qui fait que c'est la cheville. Admettons, t'as un problème d'équilibre au niveau d'une cervicale, tu vas avoir un muscle qui va tirer un peu plus d'un côté pour attraper le regard à l'horizontale. Ce muscle qui tire va engendrer des tensions au niveau du bas du dos. Le bas du dos va engendrer un problème au niveau du genou et qui va être au final essayer de compenser le plus possible par la cheville. Mais celle-ci, elle est au bout de la chaîne, elle travaille énormément, ce qui fait que elle finit par souffrir et c'est la douleur qui se manifeste. Là, j'ai pris vraiment quelque chose d'hyper mécanique, mais c'est peut-être pour expliquer dans les grandes lignes pour ceux qui ont un peu du mal à comprendre ces grands liens. Voilà un peu comment peut se faire l'adaptation du corps. Alors si on prend en plus peut-être, comme tu dis, des problèmes psychologiques et ce qui fait que la posture s'ajoute par-dessus, je sais pas comment tu... est-ce qu'il y aurait un exemple peut-être comme ça de chaîne avec de la psychologie, avec des problèmes comme tu l'as évoqué?
Alors l'exemple de chaîne, c'est pas forcément une chaîne, c'est qu'en fait il y a un contexte psychosomatique, on va dire, qui peut engendrer des tensions par le contexte lui-même, c'est-à-dire que la personne peut se trouver en tension soit dans sa maison, soit dans son travail, et de la même façon que pour un problème mécanique, on va essayer d'adapter, comme tu viens de le dire, un problème cervical peut arriver par des chaînes mécaniques jusqu'au pied. C'est que là, on était précis que la personne va, par rapport à des tensions psychosomatiques, on va dire, ces tensions-là vont imposer et induire des obligations de compensation chez cette personne. Ces compensations, au bout d'un moment, vont avoir des problèmes. Comme dans toute compensation, ces compensations vont se bloquer dans le temps, c'est-à-dire elles vont perdre de la mobilité. Donc il va y avoir une restriction de mobilité. Et quand on est dans ces phénomènes adaptatifs au niveau des comportements, c'est clair et précis qu'il y a des soucis au niveau des sensations qui se font. Et les premières adaptations de ces mauvaises sensations chez les personnes, c'est soit au niveau de la tête, c'est-à-dire on est irritable, on dort mal, on a l'impression qu'on n'est bon à rien ou qu'on a changé complètement par rapport à son entourage, ou alors sinon, c'est des problèmes d'ordre viscéral, c'est-à-dire qu'on a des ballonnements, on maigrit ou on grossit, les femmes ont toujours mal en bas du ventre ou le ventre qui ballonne, avec des problèmes de cycle certainement. Et ensuite, effectivement, par ricochet, si on arrive à ce stade-là au niveau viscéral, c'est clair et précis qu'on tombe après dans l'adaptation d'ordre mécanique pur, à savoir viscéral en premier, mécanique en second. Donc, un problème de mal-être à la maison peut se traduire en résultant par un problème donc de mauvais fonctionnement et de mauvaise adaptabilité au niveau des organes viscéraux. Et ensuite, ces organes viscéraux vont induire et imposer des compensations au niveau de leur structure, donc des adaptations et des compensations structurelles, et donner un problème à la cheville, de la même façon qu'un bassin étant de travers ou étant en lésion va donner un problème à la cheville. Voilà comment on peut arriver à un problème de cheville alors qu'on a, on va dire, un problème à la maison. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est évident. Ce serait simpliste de dire j'ai un problème à ma femme, donc c'est pour ça que j'ai mal aux pieds. C'est pas possible de dire ça. Mais dans l'adaptabilité dans le temps, on peut éventuellement arriver à ce genre de truc. Voilà. Donc ça, c'est dans les grandes lignes et, on va dire, théoriquement en parlant, ouais, c'est faisable.
C'est très intéressant, je pense que ça peut permettre aussi aux personnes qui écoutent, aux éditeurs du podcast, d'avoir une meilleure idée de comment le psyché peut interagir avec le corps, le viscéral, etc. Ça peut paraître très très flou au départ. Les choses s'expliquent énormément d'un point de vue anatomique aussi, je veux dire, et même comme tu le dis, anatomique, je sais pas si les liens neuros, si les liens, on va dire, d'hormones, etc., ça fait partie de l'anatomie d'un certain sens. Donc les choses, si tu t'intéresses un petit peu, tu comprends finalement. T'as pas besoin d'avoir fait beaucoup, beaucoup d'études pour comprendre qu'il y a des liens et c'est extrêmement clair. Et si quelqu'un, par exemple, on va prendre... j'ai des sportifs, moi, qui écoutent beaucoup le podcast. C'est vrai que j'ai souvent cette cible, on va dire. Si un sportif actuellement il écoute cet épisode, il a une douleur au niveau du dos, comment, sans forcément consulter directement un ostéopathe ou alors quelqu'un qui a fait la méthode solaire, comment il peut avoir une piste sur l'origine de sa douleur, qu'est-ce qu'il doit se dire, parce qu'il se dit oui mais alors moi je suis sportif mais en même temps j'ai des petits problèmes à la maison, en même temps c'est vrai que j'ai peut-être quelqu'un de tolérance digestif par rapport au gluten. Déjà, il se pose beaucoup de questions et comment il pourrait avoir une première idée de piste sur l'origine de sa douleur pour peut-être essayer de trouver une solution.
Alors moi, j'ai une idée assez arrêtée sur ça. C'est vrai que je pars d'un concept et d'un item très généraliste au départ, c'est-à-dire que je pars du concept de penser qu'en fait, on est là pour s'adapter. Donc on est face à un énorme défi adaptatif. Notre être dans le macrocosme, on doit s'adapter en permanence. Donc, comme on doit s'adapter au macrocosme, on s'adapte à la météo, on s'adapte au climat, on s'adapte, à la voiture qu'on conduit, à la moto, on marche, c'est froid, enfin, voilà, on s'adapte dans l'environnement dans lequel on vit. De la même façon, l'adaptation, on adapte notre corps par rapport aux contraintes qui lui sont imposées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour reprendre cet exemple du jeune qui a mal au dos et qui a peut-être des petits problèmes à la maison, tout ça, voilà. Donc la première des choses que on pourrait lui demander, c'est de savoir est-ce que ce problème de dos, est-ce que ça lui empêche de faire du sport, ou est-ce que c'est parce que ce problème de dos, il a mal au dos après le sport ou pendant le sport, donc dans le temps en fait, je veux dire, pas au début mais à la fin. Est-ce que c'est des douleurs qui sont plutôt localisées, c'est plutôt diffus? Est-ce que c'est des douleurs qui sont pas forcément pendant le sport, mais plus en fin de journée ou pendant la nuit? Si tu veux, dans cet interrogatoire, on va dire, tous ces questionnements, la réponse de la personne va pouvoir nous indiquer quelques pistes d'investigation par rapport au fait que ce problème de dos soit est un problème articulaire vrai, un blocage du dos quelconque, soit un problème qui est lié à un problème viscéral parce que le viscéral vient compenser dans le dos. Et donc la compensation peut se bloquer dans le dos et du coup avoir un problème articulaire dans le dos, notamment lombaire, à cause du viscéral. Ou est-ce que ce problème de dos ne traduit pas un problème qui est beaucoup plus global et en dehors du système mécanique? En France, on a toujours l'habitude de dire en avoir plein le dos. Donc du coup, des fois, même un sportif, il peut gérer des choses pas trop sympas pour lui dans sa vie, et effectivement en avoir plein le dos. Et quand il bouge, effectivement, la tension est déjà importante par rapport à son activité, par rapport à son contexte. Le fait de bouger sursollicite les capacités de son dos et ça peut devenir douloureux. Voilà. Dans les grandes lignes, ce que je peux penser. Voilà. Sans voir quelqu'un, ou tout comme ça. Voilà.
Et c'est intéressant de voir que les causes peuvent s'entrechoquer, s'entrelacer, se mêler, que c'est pas forcément une cause à 99% qui est responsable de la douleur actuellement.
Exactement. Voilà.
Bon, de toute façon, on invite chaque personne qui présente des douleurs à s'en occuper, à consulter. Alors peut-être pas tout de suite, parce que c'est pas possible, parce qu'on est en période de coronavirus, de confinement notamment en France, où plus personne n'a le droit de bouger, à l'heure où on enregistre cet épisode, en tout cas. J'aimerais qu'on discute un petit peu de l'acupuncture maintenant, parce que y a évidemment il y a plein de choses moi que j'aimerais aborder dans tout ce qu'on a dit jusque là. Moi j'ai plein de questions qui rebondissent sur la méthode solaire, etc. Mais malheureusement il faut un petit peu faire des choix. Et c'est vrai que je voulais quand même avoir une idée de ce que c'est que l'acupuncture. On va dire mêlé dans peut-être toute cette pratique d'ostéo, de kiné, je veux dire comment ça peut s'imbriquer, comment ça peut avoir une association, comment on peut décupler des résultats. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais dire simplement qu'est-ce que c'est que l'acupuncture ? Quels sont les principes clés ?
On va dire globalement, voilà. L'acupuncture n'est qu'un moyen en fait. L'acupuncture fait partie des éléments, des moyens mis à disposition de la médecine traditionnelle chinoise. Donc la médecine traditionnelle chinoise, donc chez nos amis extrême-orientaux, donc c'est une médecine préventive, c'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire à l'inverse de notre médecine allopathique, où la nôtre est complètement curative, c'est-à-dire un médicament pour telle maladie, on va dire comme ça. Les Chinois, les extrême-orientaux, eux, ils ont un concept différent, c'est-à-dire ils vont avoir une médecine et ils vont pratiquer une médecine pour éviter que le corps tombe malade. Voilà, donc c'est dans ce sens où cette médecine traditionnelle chinoise est dite préventive.
Et est-ce que justement, ils sont beaucoup moins touchés par des maladies pour le coup ? Est-ce que ça a un vrai impact ou pas tant que ça, ou c'est difficile à chiffrer ?
À mon niveau, je ne suis pas donc ni épidémiologiste ni quoi que ce soit, mais donc c'est vrai qu'ils ont, de là à dire qu'ils ont moins de soucis que chez nous, concernant les graves maladies et tout ça, moi je le pense, parce qu'en fait, le très grand générateur de nos problèmes, nos gros problèmes de santé ici en Occident, c'est généré par le stress, on est d'accord sur ça, tout le monde s'accorde à le dire. Donc le stress de nos vies fait qu'effectivement, ça génère de gros, gros problèmes. C'est vrai que chez eux, là-bas, on peut dire qu'il y a moins de problèmes d'hypertension artérielle, il y a moins de problèmes de gros problèmes de cancer, de gros problèmes de... Tous ces gros, gros problèmes-là, ils en ont moins, de problèmes hépatiques, tout ça, beaucoup moins. Donc de là à dire que c'est grâce à la médecine traditionnelle chinoise, je ne sais pas, c'est plus dû... À mon avis, une philosophie de vie qui est différente, ça je le pense. Mais pour parler de la médecine traditionnelle chinoise, donc du coup, ils ont mis à disposition des moyens. L'acupuncture est un moyen, mais aussi le qigong est un moyen de la médecine traditionnelle chinoise. Le qigong, la pharmacopée chinoise, il y a le massage, le tuina aussi. Le tuina fait partie des moyens de la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'acupuncture est un gros morceau, effectivement, parce que ça reprogramme, en fait, on va dire, ça programme, en fait, des réactions, ou en tout cas, des réactions internes, oui, lorsque cette programmation est mise en place. Et c'est en ça que cette acupuncture est très intéressante, évidemment, déjà à l'apprendre, parce que ça prend beaucoup sur soi, et évidemment, à essayer de pratiquer en complément d'un art comme l'ostéopathie, et qui vient, je dis, en complément, parce que c'est quelque chose de différent quand même. C'est quelque chose de différent, pourquoi ? Parce que comme l'ostéopathie, à mon avis, moi, je la pratique comme ça, c'est-à-dire que cette ostéopathie, c'est un acte non médical, donc on est en dehors de toute pathologie qui est réservée à la médecine. L'acupuncture rejoint un peu l'ostéopathie en ce sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pathologie avérée. On est en avant de cette pathologie. C'est-à-dire que quand un problème a tendance à rester soit sur le concept d'acupuncture, ou même, on pourrait le dire, on ne fera jamais d'études sur ça. Mais peut-être qu'un problème viscéral au foie ou à l'estomac en ostéopathie, si ça dure trop longtemps dans le temps, on pourrait se poser la question si cette congestion et cette hypercongestion ne peut pas provoquer une pathologie dans le temps. Ça, ce sera difficile à prouver, il est évident, on peut se poser la question quand même. Et donc, en acupuncture, on peut se poser ça aussi, c'est-à-dire si un problème reste trop longtemps dans le temps, est-ce que ce problème ne va pas, entre guillemets, ne va pas s'enquister pour devenir une vraie pathologie après ? Et cette pathologie, une fois qu'elle est, on va dire, imprimée dans le corps, ou elle a pris forme dans le corps, j'en parle avec ma petite expérience, ou alors il faudra que je prenne beaucoup plus d'expérience et que je vieillisse un peu plus. Mais franchement, je ne vois pas comment l'acupuncture peut soigner un problème de cancer de foie ou un problème pancréatique ou un problème intestinal ou un problème de côlon ou de rein. Une fois que c'est enquisté. Donc quand ça a attaqué la matière, Là, on revient sur de la médecine allopathique qui est curative et il faut aller enlever ce qui ne va pas.
Ouais, c'était la question que je me posais justement. Si on reprend l'exemple du sportif qui a mal au dos, alors on n'est pas sur un problème peut-être viscéral comme tu l'as dit, hein, sur un problème de foie, sur un problème de rein. Et encore, tu vois, moi je pose vraiment des questions parce que je connais pas. Je sais qu'il y a des liens avec les méridiens, tout ça. On va en discuter justement. Mais ce fameux sportif qui a mal au dos, donc pour le coup, il n'est plus dans lorsqu'il veut consulter un acupuncteur, il n'est plus dans la prévention puisqu'il a déjà mal depuis quelques semaines. Il s'est fait mal. Est-ce que il va trouver réconfort ou juste confort dans l'acupuncture ou alors justement ça n'a plus de sens de consulter à ce moment-là parce que c'est déjà déclaré.
Bien sûr, oui, il y a sens à consulter en acupuncture, effectivement, pour un problème de mal au dos. Par contre, après, voilà, l'acupuncteur, si par chance l'acupuncteur est aussi ostéopathe, on va dire ça comme ça, si ce gars-là ou cette dame-là est capable de discerner un problème mécanique vrai d'un problème énergétique qui peut se soigner en acupuncture, c'est clair, net et précis qu'il va pouvoir faire le distinguo. Après, si la personne, donc ce sportif qui va consulter un acupuncteur strict, on va dire ça comme ça, qui ne connaît pas la mécanique, cet acupuncteur va faire ce qu'on appelle un diagnostic énergétique pour essayer de comprendre d'où vient cette douleur du dos en énergétique, en acupuncture. Elle peut être la résultante d'un problème lié au méridien ou la résultante d'un mauvais fonctionnement global du corps avec une résonance plutôt dans le dos. Donc c'est le diagnostic énergétique de départ qui va aiguiller le thérapeute, l'acupuncteur, à savoir s'il peut intervenir, s'il y a intérêt à ce qu'il intervienne, et s'il intervient, est-ce que ces séances d'acupuncture vont être efficaces pour soigner ou pour soulager la personne qui vient avec ce problème. Donc c'est le diagnostic énergétique de départ qui va orienter le thérapeute dans son soin. Si le diagnostic énergétique montre qu'il n'y a pas de problème ni de déséquilibre énergétique, donc par la prise des pouls, la langue, les points douloureux, enfin, il y a un protocole là-dedans, au niveau du diagnostic énergétique. Si ce protocole nous amène vers une incohérence, c'est clair, net et précis, c'est pas qu'il est très grave dans la maladie ou dans le problème, c'est qu'en fait, c'est pas cohérent par rapport à ce qui devrait être. Donc, on peut s'exclure du problème, c'est-à-dire que la personne qui a mal au dos peut se voir dire chez l'acupuncteur, je ne peux rien pour vous parce que ça ne correspond pas à de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà.
Ok, mais ça me... J'ai plein de questions qui se bousculent pour le coup. Difficile à choisir. Déjà, on va peut-être rappeler, tu vas me dire si je me trompe, l'acupuncture, le traitement, il s'agit de mettre des aiguilles sur des méridiens particuliers pour libérer des énergies. Est-ce qu'on peut, tu peux me dire un peu comment ça fonctionne?
Alors l'acupuncture, oui, c'est des punctures, donc c'est une technique, donc c'est une poncture de points, ça se fait avec des aiguilles d'acupuncture là-dessus, donc sur des points particuliers sur les méridiens. On ne prend pas tous les points du même méridien et on va, donc les méridiens, le corps comporte 12 méridiens principaux, on va dire ça comme ça, pour parler globalement, 12 méridiens particuliers, grands méridiens on les appelle, et donc c'est sur ces méridiens, il y a des points qui sont prépondérants pour le rééquilibrage, comme on veut, de la circulation énergétique qui fera que effectivement la personne se sent plus ou moins en accord avec elle-même, donc plus ou moins en accord avec son corps là-dessus. Donc du coup, c'est en fait le diagnostic énergétique va nous montrer dans quel sens il y a eu un déphasage de sensation, et ce déphasage de sensation, une fois qu'il a été identifié, donc l'acupuncteur, par sa connaissance au niveau des points, ce à quoi sert ce point particulier pour régler tel ou tel problème, si vous voulez, il va donc, par rapport au problème, il va prendre les points adéquats pour essayer de rééquilibrer le problème pour aller vers une solution de continuité. Voilà. Donc en gros, c'est, encore une fois je le dis, c'est le diagnostic de départ qui va donner, on va dire, la voie au thérapeute à aller explorer pour soigner la personne, et par rapport à ce diagnostic, lui, sur ses connaissances, il va choisir tel ou tel point pour aller faire du bien à la personne. Voilà.
Ok, bah la stratégie est finalement assez proche de celle de l'ostéopathie, à savoir qu'on fait des tests pour pour voir un petit peu les chaînes lésionnelles ou ce vers quoi on est attiré en termes de perte de mobilité. Et ensuite, de ces tests en découlent les techniques et l'approche qu'on va adopter pour essayer de soulager le problème.
Les objectifs vont déterminer les techniques. Donc en acupuncture, les objectifs, c'est-à-dire le diagnostic, va déterminer le choix des points à prendre pour rééquilibrer. Comme en ostéo, la même chose, c'est évident.
Ok, donc quelqu'un, qu'on soit bien d'accord sur ça, alors quelqu'un qui présente une douleur, bon je vais rester sur mon exemple, une douleur au niveau du dos, il est possible qu'on ne puisse rien faire en acupuncture, parce que les tests effectués n'indiquent rien en lien, en tout cas, avec la douleur présente. Hein.
C'est
bien ça. Ok, donc bon, c'est intéressant. Et alors moi je voulais demander parce que c'est très oriental, on va dire, cette façon de penser de l'acupuncture, qui est de régler les problèmes avant que les, enfin régler les problèmes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème qui arrive, être dans la médecine préventive. En Occident, c'est pas du tout le mode de mentalité. Est-ce que c'est pas justement frustrant et hyper difficile d'avoir très souvent des gens qui ont des problèmes et de pas tout le temps pouvoir les résoudre parce que justement l'acupuncture elle se situe avant que les problèmes arrivent. Comment on fait passer le message et comment tu le gères, toi ?
Alors, c'est assez difficile. C'est assez difficile, et je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que moi-même, j'étais dans cette espèce de paradigme de pensée à l'époque, avant, quand j'ai commencé mon activité, on va dire, donc ma vie professionnelle, j'étais très scientifique, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, 1 plus 1 est égal à 2, et pas question que ce soit 4 moins 2 pour qu'il soit égal à 2, quoi. Je veux dire, c'était 1 plus 1, c'était logique. Il fallait une détermination scientifique pour que tel fait plus tel fait amène à tel fait, voilà. Donc ensuite, les choses évoluent, on se rend compte qu'effectivement, on peut penser différemment, parce que le 1 plus 1, le 2 est pas forcément égal au 1 plus 1, ça peut être différent, machin, voilà. Donc du coup, l'évolution de la personne au niveau de son expérience et de sa maturation l'amène à penser différemment, voilà. Donc du coup, ensuite, comment on gère ça au quotidien? Effectivement, je peux dire qu'en fait le maître mot, c'est d'expliquer aux gens, c'est-à-dire d'essayer de leur faire comprendre que de penser différemment et d'essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, ce qui leur arrive, leur expliquer avec des mots on va dire simples, pas parce qu'ils sont simples eux, c'est parce qu'en fait souvent ce qui se passe, c'est qu'on explique, les thérapeutes, on explique les choses avec le jargon thérapeutique.
Tout à fait, et exactement comme en finance, tu vas voir ton banquier, tu comprends rien à ce qu'il raconte.
C'est très spécifique comme langage, et les gens, ils ont pas, ils sortent du cabinet, ils ont rien compris à ce qui leur arrive, et du coup, ils sortent et ils savent pas ce qu'ils ont. Et je pense, moi, que s'ils ont compris le mécanisme qui peut être mécanique, qui peut être viscéral, qui peut être énergétique, peu importe, avec des mots simples, si on arrive à faire comprendre à la personne ce pourquoi elle est arrivée à cet état-là, c'est quasiment la moitié, voire les trois quarts du travail qui est fait. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, si elle n'a plus envie d'y retourner dans cet état, elle fera ce qu'il faut pour ne pas y retourner. Si elle a compris le mécanisme, elle n'y retournera pas là-dedans, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je fais moi au jour le jour. Et les retours que j'en ai sont, on va dire, positifs pour la plupart, puisque les gens disent, au moins vous expliquez, au moins vous nous avez expliqué ce qu'on a par rapport aux médecins qui n'expliquent pas. Je ne dis pas là qu'on est plus fort que les médecins, mais je pense que le discours est très important à leur expliquer bien simplement le pourquoi de la chose et pourquoi la personne est arrivée dans cet état-là, encore une fois, dans le domaine des compétences de l'ostéopathe ou de l'acupuncteur, à savoir la mécanique, qu'elle soit articulaire, viscérale, ou si on est acupuncteur, de l'acupuncture aussi. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de retours aussi de la part de certains confrères finalement, on le voit aussi dans certains articles, ostéopathie et cancer, ostéopathie et greffe de foie. Moi, je suis très gêné quand je vois ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'à preuve du contraire, je me demande ce que vient faire l'ostéopathie dans les traitements de cancer. Je me demande ce que vient faire l'ostéopathie dans des traitements de sclérose en plaques, de CEP, dans le traitement même de la pathologie, ça n'a rien à voir.
Ouais, il va y avoir une action plus sur des symptômes ou des conséquences, mais ouais, il faut vraiment rappeler qu'on n'est pas là pour, enfin, qu'on ne guérit pas, l'ostéopathie ne guérit pas ces maladies.
C'est quand il y a de la pathologie avérée, je trouve que l'ostéopathe n'a pas forcément sa place, sauf à expliquer bien à la personne et voire même au médecin. Moi, j'ai eu contact avec deux médecins. Avec l'expérience aussi, ça, ça vient. Et les médecins vous font confiance à partir du moment où dans la vie, vous avez pu montrer, on a pu montrer qu'on était, pouvait être digne de confiance ou en tout cas sérieux. C'est-à-dire qu'on peut expliquer aux gens, dans telle pathologie ou dans telle, selon telle pathologie ou telle maladie, on peut vous soigner ça ou vous soigner ça ou vous soignez ça de façon symptomatologique. C'est-à-dire que ça reviendra. Mais pour quelque temps, on peut travailler ça, ça peut vous faire du bien. Je prends pour exemple, j'ai un gars là que je soigne moi, donc il vient en kiné, il a un accident, il est hémiplégique. Et il est hémiplégique, donc ça fait 30 ans qu'il est hémiplégique, donc il marche. Mais il a un côté droit qui ne marche plus du tout, ou très mal. Mais ça lui arrive, parce qu'il bouge, ça lui arrive de se bloquer un bassin, de se faire mal au dos, de se bloquer une cervicale, ou même sur son côté hémiplégique, de temps en temps, je lui fais un petit peu de travail sur le bras, ou des techniques ostéo sur le bras, paralysé, ça lui fait du bien, pendant un temps certes, mais ça lui fait du bien. Et je trouve que c'est des techniques qu'on peut appliquer chez ces gens-là pour leur apporter du mieux dans le moment. Ça ne durera pas, mais il faut leur dire. Et il faut surtout faire savoir aux médecins que l'ostéopathie n'est absolument pas quelque chose qui va soigner l'hémiplégie, par exemple, mais en tout cas, on peut améliorer la qualité de vie pendant un petit moment sur cet hémiplégique qui a mal au bras ou mal à la jambe depuis longtemps, et quand si on peut lui apporter pendant 15 jours ou 3 semaines du mieux, je trouve qu'il ne faut pas s'en empêcher. Tant pis, on recommence dans 3 semaines. Mais il me semble que c'est prendre soin des gens, c'est ça aussi.
Ouais, non. Je vois, je suis d'accord avec ça. Peut-être de manière plus vulgaire, on va appeler ça de la thérapie de confort, dans un sens. Donc, bon, on essaye de sensibiliser peut-être les gens à avoir davantage une mentalité de prévention sur leur corps, sur leur douleur. Donc, les raisons qui pourraient nous amener à consulter en acupuncture, on est sur... alors bon, s'il y a une douleur, on peut essayer de voir s'il y a quelque chose à faire. Le mieux, comme on l'a dit, c'est de consulter avant qu'il y ait une douleur, pour de l'équilibration, pour prévenir des problématiques. Je vais essayer peut-être d'aller encore un petit peu plus loin.
Oui.
Est-ce que il y a d'autres motifs possibles? Je vais préciser ma pensée parce que j'ai une petite question par rapport à ça. Si par exemple moi je souhaite être meilleur dans mon activité sportive, je veux avoir de meilleures performances et peut-être aussi avoir une meilleure récupération. Alors, c'est lié, mais bon, en même temps, ça peut être deux motifs différents. Est-ce que je peux aller voir un acupuncteur qui va me faire un bilan, et est-ce qu'il va y avoir une possibilité d'améliorer mes performances ou ma récupération, par exemple?
Ça, bien sûr, on peut. Donc là, sur ces questions de, on pourrait appeler ça des questions de préparation à, on va dire, un suivi de sportif ou une prise en charge de sportif, qu'il soit de haut niveau ou pas de haut niveau, ou quelqu'un qui veut améliorer ses performances pour lui-même. C'est-à-dire que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est toute une histoire de contexte. C'est-à-dire que pour parler du soin en acupuncture éventuellement qu'on pourrait avoir sur cette personne, qu'on pourrait faire chez cette personne, c'est toujours pareil. Donc la personne arrive chez l'acupuncteur et l'acupuncteur lui demande pourquoi il vient, et donc le gars lui dit exactement ce qu'on vient de dire là. Et donc il va y avoir ce diagnostic donc énergétique qui va déterminer certaines choses, mais pas au niveau des douleurs, c'est-à-dire que savoir si l'énergie circule bien au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau de la rate, au niveau de l'estomac. Tout ça, c'est pas les organes, c'est les méridiens, hein, d'accord ? Alors, on est en acupuncture. Donc du coup, juste un exemple, il faut savoir que par exemple la puissance et la récupération, l'énergie fondatrice, fondamentale, on dit que c'est l'énergie du rein. Donc pour avoir, on va dire, de meilleurs résultats au niveau sportif, on pourrait éventuellement poser le problème différemment. C'est est-ce qu'il est dans des bonnes, cette personne est dans de bonnes dispositions énergétiques, est-ce qu'il a le plein potentiel de son énergie pour avoir de meilleurs résultats sportifs. Donc pour résumer, c'est est-ce qu'on peut, on pourrait travailler un petit peu sur le rein notamment, est-ce qu'on pourrait le solliciter pour le stimuler un peu plus, pour que ce rein donne un peu plus de puissance, pour que la personne se sente un peu plus costaud, un peu plus vive, un peu plus résistante, et récupérer mieux par la même, puisque si ça marche bien, ça marche bien dans l'effort, mais ça marche bien dans la récupération aussi. Donc c'est un exemple un peu simpliste, mais c'est clair que, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne peut avoir de meilleurs résultats? Oui, en améliorant le contexte dans lequel la personne a tendance ou va s'entraîner, ou dans quelle disposition elle va s'entraîner. Voilà. Donc, et au fur et à mesure de l'entraînement,
on peut adapter la même chose, on peut adapter les régulations qu'on pourrait avoir sur cette circulation énergétique au travers ces grands méridiens. D'accord ? Sur le rein, le foie, la rate, l'estomac, le gros intestin, machin, voilà, tout ça. On peut tout réguler en fonction de ça, en fonction des saisons, en fonction du temps, en fonction de beaucoup de choses. Voilà, c'est très, 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 très vaste et très intéressant.
Ok, et si je reprends un exemple particulièrement précis, si quelqu'un, moi-même d'ailleurs, je te pose la question, c'est comme si c'était moi, que je te demande, je frappe à ta porte, je te dis, moi j'aimerais améliorer ma coordination musculaire pour être meilleur en technique. Par exemple, je me suis mis à l'haltérophilie. C'est pas vrai du tout, mais comme ça me permet de rappeler aux gens qu'il y a un épisode qui est dédié à l'haltérophilie avec Nicolas Gravis qui était très intéressant, donc tout le monde peut aller l'écouter. Mais admettons, je fais de l'haltérophilie ou autre sport qui demande une coordination musculaire, hein, c'est pas du tennis, ça peut être tout sport plus ou moins technique. Comment tu pourrais améliorer cette coordination, peut-être la vitesse de propagation du signal nerveux, le nombre d'unités motrices dans un muscle qui va être synchronisé ou qui va être activé pour ce mouvement. Est-ce que ça, c'est possible?
Alors, ça, c'est possible, oui, mais pas aussi précisément. Je rejoins tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'acupuncture va travailler sur l'amélioration du contexte dans lequel cette action très précise va pouvoir se réaliser. Je dis ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette coordination motrice avec ce recrutement d'unités motrices au niveau musculaire, si le contexte musculaire autour n'est pas bon ou est moins bon, c'est clair, net et précis que le rendement sera moins efficace si le contexte musculaire est bien sain tout autour. C'est-à-dire que le gars, je vais faire la caricature suivante, c'est-à-dire si l'haltérophile qui boit tous les repas un litre de bière et celui qui boit un litre d'eau, ça va se voir tout de suite. Ils mangent la même chose, mais ils vont pas avoir la même efficacité au niveau nutrition. Donc du coup, l'environnement dans lequel le muscle, puisqu'on parle du muscle, ne va pas travailler de façon aussi rentable, celui qui boit de l'eau que celui qui boit de la bière. D'accord ? Donc il va plus favoriser à être blessé et compagnie. Donc pour répondre ensuite sur éventuellement l'apport de l'acupuncture pour un gars comme ça, eh bien c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va le suivre et on va, par rapport au retour que lui va avoir sur ses sensations de l'entraînement, on va pouvoir agir plus ou moins. Alors pour la coordination, c'est plutôt le foie, vésicule biliaire, d'accord, avec le rein. Donc on va essayer de travailler, de réguler sur ces méridiens foie, vésicule biliaire, rein, le cœur, le pancréas, enfin, le rate, je veux dire. Donc, en essayant de, si vous voulez, de s'adapter en permanence par rapport au retour que la personne renvoie et éventuellement au diagnostic de chaque séance, au début de chaque séance, voir un petit peu quel est le résultat de la dernière séance, comment ça a évolué, qu'est-ce que c'est qu'il a rapporté comme la personne, ce qu'elle a rapporté comme mieux ou moins bien ou pareil. Voilà. Donc, c'est vraiment un échange permanent entre la personne et le thérapeute dans la prise en charge d'un tel sportif, je parle, voilà, évidemment.
Et tu vois, tout à l'heure, on discutait par exemple après une technique manipulative en ostéopathie, qu'on peut avoir un résultat qui est extrêmement immédiat par rapport à une douleur, ce qui fait que des fois ça renforce l'idée qu'il y a un effet extrêmement bénéfique et avéré pour l'ostéopathie, pour certains qui auraient des doutes, enfin, ou qui seraient un petit peu sceptiques par rapport à cette discipline. Est-ce qu'on peut retrouver un peu ces effets immédiats en acupuncture également, à savoir que... Alors c'est difficile parce que, admettons, tu vas consulter en acupuncture parce que tu vas bien et que tu souhaites aller mieux. J'imagine qu'après une séance, il va pas y avoir une différence énormissime. Et est-ce que toi, tu as des retours peut-être de patients qui te disent j'allais bien, mais quand je suis sorti, waouh, j'ai senti vraiment une différence sur quelque chose, j'allais encore mieux, je me suis rendu compte que j'allais pas si bien que ça avant.
Voilà, oui, ça voilà. Ça, c'est surtout ces trucs-là, ces retours-là qu'on a. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils viennent, ils disent bon, je viens faire de la cure, on m'a dit que c'était bien, bon, donc je viens, on va faire ça, ok. Donc ils viennent pas pour quelque chose de particulier, juste pour, on va dire, presque essayer, en gros. Là, il y a des gens qui viennent comme ça. Et effectivement, tout à l'heure, je parlais du rein, donc pour des gens comme ça qui viennent en consultation, souvent, c'est un effet assez bénéfique et assez magique presque, c'est de travailler sur le rein et de donner comme un espèce de petit coup de boost, qui est très temporaire là-dessus, hein, pour les gens qui vont bien, cette espèce de coup de boost au niveau du rein, au niveau du méridien du rein, pour, on va dire, dynamiser, pulser, rendre un peu plus puissante cette circulation énergétique, et qui fait que la personne se dit « putain, mais c'est incroyable l'effet quoi, là-dessus ». Donc ça, c'est, ça peut être un effet assez rapide. En fin de séance, ça peut être ça. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui vont plutôt bien et qui se disent « on va faire ça ». Voilà. Donc ces gens-là vont décrire ça. Par contre, pour les gens qui sont, on va dire, un peu moins bien et qui sont un peu d'ananas, eux, par contre, ils ramènent du mieux quand la séance a été efficace. Ils ramènent du mieux 2-3 jours après, quand même. Hein, d'accord, là-dessus. Donc, c'est pas de l'immédiateté, quand même, hein, là-dessus. En tout cas, pas spécifiquement et pas, j'allais dire, pas comme l'ostéopathie où on a quand même un effet d'immédiat assez souvent, quand même. Voilà. Donc, l'acupuncture est plus grande, quand même.
Si je veux faire un peu l'avocat du diable. Et soutenir tous les, enfin pas soutenir, mais me mettre à la place de tous les sceptiques et ceux qui ne croient pas du tout en ce genre de thérapie, qui sont uniquement allopathique, enfin médecine allopathique classique occidentale, on va dire. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a des études ou des choses qui prouvent l'efficacité de l'acupuncture? Et alors, on est d'accord, hein, je veux dire, évidemment qu'on n'a pas besoin de preuves pour voir qu'il y a des résultats, mais c'est vraiment pour mettre à la place de quelqu'un qui est contre, ou on ne sait pas pourquoi, il a une mauvaise expérience et puis il a décidé d'être anti-acupuncture. Est-ce qu'il y a des preuves ou des études qui corroborent des effets positifs des résultats?
Non, ici il n'y en a pas, et je pense qu'il n'y en aura pas en France, ni en Europe, ni en Occident de toute façon. Il n'y en aura pas, pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir des preuves scientifiques, c'est ce que tu voulais dire, les preuves scientifiques. Donc ces preuves scientifiques sont souvent basées sur les Evidence-Based Medicine, donc EBM. Et ces EBM, c'est des radios, des scanners, des relevés sanguins, donc des marqueurs sanguins, tout ça. Donc en acupuncture, si on fait une prise de sang avant et après une séance d'acupuncture, les deux examens vont montrer très exactement la même chose. Dans le sens où, je veux dire, il n'y a pas une modification de la formule sanguine immédiatement.
Les métriques qui sont utilisées en Occident, on va dire, ne correspondent pas à ce qu'on fait en acupuncture, quoi.
J'allais dire, il y a des études qui sont... C'est là l'école où j'ai étudié, moi, donc à Montpellier, à Mingtao, à Montpellier. Ils se sont associés avec 2-3 écoles françaises et ils vont chaque année, donc pendant 3 semaines, en stage pour les étudiants... par un stage dans un hôpital public à Saigon. Donc ils y vont depuis des années, donc ils connaissent très bien maintenant, et donc nous avons une expérience hospitalière d'acupuncture, donc de médecine traditionnelle chinoise en acupuncture, et c'est très 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 sérieux, quoi. Alors c'est pas faisable ici en France ni en Occident, c'est évident, pour des raisons éthiques complètement, parce qu'on est culturellement on est allopathique, donc Il faut pas y cracher dessus, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est pas faisable ici en France, mais c'est clair que les hôpitaux à Saigon, c'est en tout cas en Extrême-Orient, c'est à voir, quoi. Il y a des choses qui sont soignées en acupuncture, c'est vraiment incroyable, quoi. Mais c'est culturel quand même aussi. Je vois mal, franchement, je le dis, mais ça c'est personnel, je vois mal comment on pourrait transporter cette ambiance hôpital thaïlandais ou de là-bas, la même chose ici en France ou en Europe ou en Occident. Franchement, je pense que c'est pas faisable pour une question de culture, en gros, là-dessus. Mais c'est quand même à voir, franchement. C'est quand même à voir.
On pourrait peut-être, tu vas me dire si c'est possible, est-ce qu'il existe des techniques qu'on peut appliquer sur soi-même sans forcément directement aller voir un acupuncteur, qui sont de l'ordre du domaine de l'acupuncture ou de la médecine chinoise, en tout cas qui ont cette vision, cette approche? Est-ce qu'il y aurait des techniques qu'on peut faire sur soi, des petites choses qui déjà pourraient nous permettre d'appréhender un peu cette vision du corps et d'avoir ces premiers résultats? Je te pose cette question, je ne sais pas du tout si ça existe, hein, si c'est possible.
Pour te répondre, je pense que ça doit exister, oui. Moi, je n'ai jamais expérimenté sur moi, parce que l'école là où j'ai appris, on expérimentait directement entre stagiaires, quoi. Donc, du coup, on n'a pas eu à se planter soi-même les aiguilles. Mais pourquoi pas, quoi, en fait. Après, quand on sait un peu les points qu'on prend habituellement chez les personnes, chez les patients, on peut se les travailler soi-même. À la différence près, effectivement, que faire une combinaison de points paraît un peu compliquée parce que il y en a qui sont à la main, il y en a qui sont au coude, il y en a qui sont au pied, il y en a qui sont sous le pied, il y en a qui sont dans le dos. Bon, c'est compliqué de faire un truc complet, mais quelque chose de ponctuel et rapide, c'est tout à fait faisable. Oui, sur des, je pense actuellement là, je pense à des points, des grands points locaux autour du coude pour par exemple une douleur aiguë de tendinite, d'épicondylite, de tennis elbow, truc comme ça. Voilà, l'acupuncture sur ces grands points locaux là va faire que le côté aigu de la douleur va se diminuer un petit peu. Voilà, ça on peut se le faire si on les connaît, on les prend. Voilà.
Ok, bon, ça demande peut-être déjà d'avoir une certaine connaissance. Bon, j'invite peut-être les auditeurs à aller chercher, sur Google ou tout simplement aller voir un acupuncteur directement. Peut-être ça vous donnera une bien meilleure idée que de faire les choses peut-être par vous-même. C'est une interrogation que j'avais. Bon, je trouve ça hyper intéressant, évidemment, tout ce qu'on a dit, ce que tu as expliqué sur l'acupuncture.
Pour moi, je trouve que l'acupuncture, pour moi, je parle, c'est une expérience toute personnelle. C'est-à-dire que l'acupuncture, au jour d'aujourd'hui, l'acupuncture est arrivée à point nommé dans mon parcours de soins, donc de kiné, ostéo et acupuncture. Il me semble, mais c'est une pensée toute personnelle, il me semble que si j'avais fait kiné, acu, puis ostéo, mon rendu personnel n'aurait pas été de la même façon, je pense. L'appréhension de l'acupuncture, après avoir exploré beaucoup de voies d'ostéo, me semble être le bienvenu dans cet ordre-là. Voilà. Mais c'est une sensation toute personnelle. Voilà. C'est tout ce que, voilà, il me semble.
Voilà. Très bien. Pour terminer les épisodes, j'ai généralement trois petites questions de fin que récurrentes que j'aime bien poser. La première de ces questions, c'est quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait ou reprendrait le sport, une activité sportive, qui ne connaît pas encore grand-chose. On n'a pas énormément parlé de sport ou d'activité sportive, on était surtout sur le corps, la santé, mais c'est dirigé envers les sportifs et non sportifs, évidemment. Je sais qu'il y a plusieurs sportifs qui écoutent le podcast. C'est pour ça que je te demanderais ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, toi ?
Souvent, les gens, quand ils reprennent ou quand ils prennent ou reprennent le sport, souvent, ce qui se passe, c'est que ça se passe complètement de façon non coordonnée. C'est-à-dire que on va courir une heure ou on va à la salle de sport ou à la muscu pendant une heure, machin, voilà. D'emblée, au bout de 3-4 séances, on a un peu plus, on a mal partout tellement on a trop fait. Voilà, donc le conseil que je pourrais donner, c'est de, maintenant avec Internet, on est suffisamment, on a quand même la possibilité de s'informer suffisamment, soit sur Internet ou on a maintenant, je pense qu'au Canada c'est pareil, on a l'avènement de tous ces coachs sportifs qui sont très bien formés maintenant, de très bons conseils. On peut très bien se rapprocher d'un d'eux, pas forcément passer sa vie avec, dans le sens, pas la peine de le voir beaucoup, mais sur une séance ou deux, il montre le rythme, il montre l'intensité et l'amplitude horaire qu'il faut avoir dans la semaine pour reprendre tranquillement, sans se blesser, sans se dégoûter et perdurer, parce que c'est vrai qu'une activité sportive, à tout âge et quelle qu'elle soit, à mon avis, est gage de bonne santé globale. C'est-à-dire pas santé musculaire, je veux dire santé mentale, santé personnelle, santé physique, santé tout. Voilà, santé globale, moi j'appelais ça. Voilà, du mieux-être. Donc c'est important. Donc ce que je pourrais conseiller effectivement, c'est de bien se, on va dire, jalonner un petit peu la reprise du sport. Voilà, sans trop ni trop peu. Voilà, gentiment.
Ok. Deuxième petite question. Quel conseil cette fois tu donneras à quelqu'un qui voudrait se remettre en santé, soit après une blessure, soit tout simplement par envie d'être mieux, d'être plus en forme, hormis le sport, évidemment.
Hormis le sport, oui, donc se remettre en santé, eh bien, pour moi, effectivement, puisque j'ai découvert l'acupuncture, c'est de dire à cette personne de faire un bilan énergétique, d'aller voir un acupuncteur, je veux dire, ou un médecin traditionnel chinois, pour rendre les choses beaucoup plus rentables dans le sens potentiel de santé. C'est-à-dire que chacun a le sien, il ne faut pas être jaloux de celui qui a une meilleure santé que soi-même, s'il faut, il a un potentiel de santé inné qui est mieux que l'autre, mais peu importe, il suffit d'être bien dans sa peau à un certain moment, Et pour la personne qui voudrait se remettre en santé, soit après blessure ou parce qu'il a décidé, c'est vrai que de démarrer par un petit diagnostic énergétique, savoir si il y a pas un petit engorgement au niveau du foie, un petit engorgement au niveau du rein, ou les échanges qui se font pas bien, machin, ça relance tout ça, ça dynamise la circulation, on appelle ça une circulation dite nyctémérale, à l'intérieur du corps. Donc le flux énergétique passe, le souffle passe mieux, beaucoup plus, de façon beaucoup plus harmonieuse. Et chemin faisant, au bout de quelques semaines, au bout de quelques séances, quelques semaines, on se sent franchement mieux et on est plus en train à faire telle ou chose, plus en train à faire du sport, plus en train à faire un changement d'activité ou des choses qu'on a mis de côté, qu'on s'est dit on le fera plus tard, on le fait jamais. Donc du coup, plutôt ce conseil-là, c'est de, s'il n'y a rien de prévu vraiment, c'est de, pourquoi pas une petite séance ou deux ou trois d'accu pour relancer tout ça, relancer la machine, réinitialiser. C'est plutôt bien.
Ok, bon, j'espère que ce conseil trouvera des auditeurs, en tout cas des oreilles pour entendre ça et tester. Moi, le premier, hein, je dois avouer, j'ai jamais fait de séance d'acupuncture, sinon je serais un peu plus au fait.
Ça vaut le coup de le faire, je pense. Ouais. Franchement.
Ben, je vais y réfléchir fortement après le confinement, après que cette situation, cette période un petit peu bizarre soit terminée, je vais y réfléchir. Troisième petite question et dernière, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que ça soit au cours de tes études, ta formation ou même de ta vie tout simplement, hein, et que tu aimes bien recommander, ou en tout cas que tu as envie de recommander actuellement sur le podcast? Ça peut avoir un lien avec le sport ou pas, avec l'ostéo, avec l'acupuncture ou pas.
Alors des livres, oui, des livres professionnels, bien sûr. Enfin, après, c'est vrai que c'est très lié à tout mon apprentissage en ostéopathie, donc avec Soler, donc qui a écrit des choses intéressantes. Donc, je vous invite éventuellement à ceux qui sont intéressés d'aller taper Roland Soler sur un moteur de recherche quelconque sur Internet. Vous allez tomber sur non seulement sur sa biographie, sur son CV assez impressionnant, sur son parcours et tout ce qu'il a. Ce à quoi il a cherché et recherché, voilà, c'est intéressant à aller voir, bien sûr. Et ensuite, après, il y a un bouquin aussi qui est d'ordre professionnel aussi, qui s'appelle Les principes fondamentaux de l'acupuncture, écrit par, enfin, traduit, on va dire, par un Italien qui s'appelle Massiosa, ouais. Et c'est un gros pavé, il fait 1000 et quelques pages, donc c'est vraiment un livre professionnel qui est, enfin, c'est pour moi quelque chose d'important à feuilleter et aller consulter. Et ensuite, à titre personnel, j'aime bien lire et relire un livre d'un auteur qui s'appelle François Cheng, qui s'appelle 5 méditations sur la mort. Voilà, j'en dis pas plus parce que franchement, c'est vraiment un questionnement sur la vie. Donc, penser à la mort, c'est forcément penser à la vie. Donc, j'y reviens souvent aussi. C'est pour moi très intéressant. Voilà.
Ok. Ok, bon, je connais pas, hein, je crois que je n'ai jamais entendu parler, donc j'irai jeter un œil. Je laisserai également en description, dans les notes de cet épisode, les références des livres que tu as mentionnés. C'était un épisode très intéressant. Est-ce que si les gens ont envie de te suivre, si on veut découvrir un peu plus tes travaux, ou même directement prendre rendez-vous avec toi, où c'est qu'ils peuvent le faire, où c'est qu'on peut te retrouver sur Internet?
Alors sur Internet, là, j'ai mon épouse qui travaille avec moi, donc qui assure toute la logistique, on va dire, du cabinet, qui assure la maintenance d'un petit compte sur Instagram. Donc c'est Ganté5Xavier sur Instagram. Et ensuite, bon, après pour prendre rendez-vous avec moi, donc soit au téléphone directement au 06 03 68 40 64. Donc je suis en France, dans le sud de la France où il y a le soleil. Et à côté de Montpellier, une ville qui s'appelle Sète. Voilà. Donc vous savez tout.
Ok. Alors, bon, s'il y a des auditeurs qui sont pas très loin de cet endroit-là, qui ont des douleurs d'ailleurs et qui veulent consulter, qui veulent te consulter, ils pourront le faire. Pour ceux qui également habitent dans cette région et qui ont été convaincus par tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur le fait, sur le sens de faire un bilan énergétique en acupuncture, ils pourront te voir. Je laisserai aussi en description ton numéro de téléphone et ta page Instagram pour que les gens puissent te retrouver. Est-ce que, avant de terminer, tu aurais une dernière chose à rajouter, que tu as un dernier message à vouloir faire passer,
hein? Un dernier message, oui, à tous les nouveaux et futurs praticiens et professionnels de la santé, notamment en acupuncture et en ostéopathie, bosser, c'est quelque chose, c'est un monde passionnant, intéressant, passionnant, qui nous fait prendre soin des autres et en même temps qui nous questionne sur notre propre devenir. Donc du coup, franchement, c'est un super métier, c'est une superbe vocation, et je vous encourage, pour ceux qui y sont, je vous encourage à aller à fond dans ce que vous croyez et ce que vous aimez faire. Donc il faut y aller à fond. Voilà le message que je pourrais éventuellement laisser après cette interview, ou en tout cas cet entretien super intéressant pour moi aussi. Voilà.
Bon, le message est top. Je te remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir participé à ce podcast. C'était hyper instructif pour moi en premier temps, et pour tous ceux qui vont écouter, je pense qu'ils vont apprendre des choses aussi. J'espère que ça a été instructif pour chacun des auditeurs. En tout cas, je te remercie encore une fois là d'être vraiment d'être passé sur le podcast et d'avoir répondu à mes questions. Peut-être à bientôt pour un prochain épisode.
Eh bien écoute, sans problème, n'hésite pas, pas de soucis, ce sera avec plaisir. Merci à toi.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si il vous a plu, vous pouvez le transmettre à un ami si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage, un ami ou un proche, pourrait bénéficier des conseils et de l'expertise de Xavier par exemple. Vous pouvez lui envoyer cet épisode directement par message. Également, si vous voulez soutenir le podcast, je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à écouter le podcast Biomécanique. Et si vous n'avez pas encore laissé une petite évaluation du podcast, c'est le moment de le faire. J'en parle assez régulièrement, mais ça permet de faire monter le podcast dans les rankings de l'application. Comment faire ? Tout simplement, vous allez sur iTunes, sur le podcast Biomécanique, vous laissez une évaluation de 5 étoiles avec un commentaire, vous pouvez dire ce que vous en pensez, ce que vous y trouvez dans le podcast et en quoi ça vous aide peut-être à répondre à quelques questions et à vous aider à mieux cerner la santé, à améliorer vos entraînements, puisque c'est un peu l'objectif initial de cette émission. Voilà, ça m'aidera grandement, ça me fait plaisir également. À chaque nouvel avis, je reçois des notifications et ça m'encourage évidemment à continuer ce projet qui est le podcast. Et enfin, une petite dernière chose, si au-delà de laisser une évaluation, vous appréciez fortement le podcast et les sujets et thèmes qui sont abordés, vous pouvez vous inscrire aussi à la lettre biomécanique. Vous retrouverez le lien directement dans les notes de l'épisode. Il s'agit de faire partie de ma liste de contacts. Lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort, vous en êtes informés quasiment les premiers. Il y a toujours des explications en plus par rapport aux épisodes et j'aime bien parsemer un peu mes lettres de petits conseils, de petites astuces ou réflexions qui sont complémentaires également mes découvertes du moment. Je vous laisse maintenant retourner à vos préoccupations. Merci à tous ceux qui vont laisser un avis, merci à tous ceux qui se sont inscrits à la lettre. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis probablement dans 15 jours pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.